Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, 13h-14h, Jacques Pessis.
Éric Emmanuel Schmitt, il est l'auteur français le plus joué dans le monde. Quelle pièce a déclenché sa vocation ? Cyrano de Bergerac. Quelle légende du cinéma a-t-il convaincu de remonter sur scène ? Daniel Darieux. Combien de pages prévoit-il pour l'histoire romancée de l'humanité qu'il est en train d'écrire ? 4500 au moins. Ses souvenirs ainsi que beaucoup d'autres, tout de suite dans Ses clés d'une vie sur Sud Radio.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Bonjour Éric-Emmanuel Schmitt.
Bonjour.
Écoutez, je suis content de vous retrouver parce qu'en plus, vous avez été un des pionniers des clés d'une vie. Oui. Vous étiez là à la 4e émission et aujourd'hui, c'est la 804e. Vous voyez,
incroyable.
Le temps passe. Alors, le principe de l'émission, des dates et un livre, Paradis perdu, le premier d'une série de 8 livres absolument étonnants. On va en parler tout à l'heure. Mais on va revenir à des dates clés de votre carrière, différentes de celles de la première fois, le 13 septembre 1991. C'est la première fois que votre nom est prononcé à la télé, car un reportage de France 3 à Pays de la Loire raconte la nuit de Valogne. Vous vous en souvenez ?
Oui, c'était une émotion extraordinaire et j'ai eu la chance finalement presque d'être reconnu tout de suite parce que ça s'est très très bien passé.
Oui, mais alors curieusement, la journaliste dit « c'est un jeune auteur, on voit l'affiche, mais elle ne vous cite pas ».
Ah non, alors ça je m'en souvenais pas.
Eh ben, c'est un reportage où on parle de Valogne, qui est le petit Versailles, à cause du nombre d'hôtels particuliers qu'il y a. Là, on explique pourquoi la nuit de Valogne, et on explique que c'est à Nantes que ça a été créé. Vous vous souvenez de ce premier soir, Éric-Emmanuel Schmitt ?
Oh, une émotion extraordinaire. J'avais l'impression que ça y est, j'avais gagné toutes les batailles que en fait je devrais livrer beaucoup plus tard. Non, c'était pour moi, c'était... Alors que c'était le début, c'était une consécration, parce que j'avais aimé le théâtre dans l'ombre, et enfin j'étais joué, et en plus par des grands acteurs, il y avait Micheline Prel, Daniel Lebrun, Mathieu Carrière, etc. Donc oui, je commençais dans un écrin magnifique et avec des grands acteurs.
Mais comment on fait quand on est un jeune auteur inconnu pour avoir d'abord une pièce et ensuite avoir de tels acteurs ?
Eh bien vous savez, c'est parfois comme dans les comédies musicales, c'est très simple, c'est-à-dire que j'admirais une actrice plus que tout, c'était Edwige Feuillère. Avec ma mère, nous allions la voir chaque fois qu'elle jouait. Et il se trouve que j'avais un ami du service militaire qui avait l'adresse d'Edwige Feuillère. J'ai envoyé ma pièce, très naïvement, à Edwige Feuillère. Elle était malade, elle avait le temps de lire, elle l'a lu, elle m'a appelé. En disant, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi bon. Je pense que vous êtes l'auteur dramatique de votre génération, si vous travaillez, parce que vous avez beaucoup trop de facilité. Et elle m'a pris sous son aile, elle m'a trouvé un agent, elle a appelé Jean-Luc Tardieu de Nantes et Guy Descaux qui était à la Comédie des Champs-Élysées. Et ma première pièce a vu le jour sous son aile.
Et voilà, et Micheline Prel qui est toujours vivante, qui va fêter ses 99 printemps cet été. Et elle a l'air en forme, j'ai croisé il n'y a pas longtemps.
Ah, tant mieux.
Voilà. Alors, Valogne, c'est loin de Sainte-Foy-les-Lyons où vous êtes né, dans la banlieue de Lyon.
Oui, moi je suis né sur la colline de Fourvière, la colline qui prie, en face de la colline qui travaille, qui est la colline de la Croix-Rousse.
Voilà, on appelle ça le poumon vert de Lyon. Et Patrice Dard, le fils de Frédéric Dard, est né là. Et puis il y a Marcel Achard, auteur un peu trop oublié, qui est de cette ville.
Et, encore au 19e siècle, l'inventeur du guignol, Laurent Mourguet.
Donc,
c'était un petit village qui fournit des auteurs dramatiques.
Et un village de sportifs, puisque vos parents étaient sportifs. Je crois que votre père était prof d'éducation physique et votre mère avait été championne de course à pied, Éric-Emmanuel Schmitt.
J'en ai gardé non pas le goût du sport, parce que c'est, enfin, à part comme spectacle.
Sport intellectuel plutôt.
Voilà, mais j'en ai gardé l'idée le goût du sport intellectuel, de la performance intellectuelle, et l'idée surtout que si on s'entraîne, si on travaille, on peut arriver à un résultat bien meilleur que si on ne fait pas tout ça. Et c'est vrai que là, dans mon dernier livre, il y a presque un travail de 35 ans qui arrive à maturité. Je me suis entraîné intellectuellement. Et l'avantage, effectivement, des travaux intellectuels, c'est qu'avec l'âge, ça se bonifie, alors que les travaux musculaires, avec l'âge, décroissent.
Voilà, il faut mieux garder les sports intellectuels. Comme disait Churchill, no sport.
Oui, no sport.
Alors, le déclic aussi de votre métier, c'est une représentation à Lyon, au Théâtre des Célestins, de Cyrano de Bergerac avec Jean Marais, Éric-Emmanuel Schmitt.
Oh, ça, c'est l'éblouissement. Je ne savais pas ce qu'était un théâtre. Et puis le rideau se lève et puis je vois un décor en toile peinte et qui donne l'illusion de la profondeur, mais en même temps dès qu'une porte claque je vois bien que c'est des toiles et je suis fasciné par l'illusion et puis surtout je suis emporté dans cette histoire, l'histoire de Cyrano, et pour la première fois de ma vie je pleure des larmes altruistes, des larmes philanthropiques, pas des larmes égoïstes. Je pleure sur le cas d'un homme qui est très différent de moi. Cyrano pense qu'il ne peut pas être aimé et qu'il n'est pas aimable à cause de son nez. Moi, j'étais un petit garçon très aimé qui pensait naïvement qu'il était très aimable. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait l'expérience de la pitié et de la compassion. Je me suis uni à un homme qui n'était pas moi. Et c'est ça, le théâtre, c'est une expérience humaniste. C'est l'expérience qui vous rend homme au milieu des autres hommes, à la fois différents et semblables.
Et à la sortie, je crois, Éric-Emmanuel Schmitt, vous avez dit à votre mère, je veux être ça, mais elle pensait que vous pensiez, vous vouliez être Jean Marais.
Oui, je dis, je veux être le monsieur qui fait pleurer tout le monde. Elle me dit, ah, tu veux être acteur comme Jean Marais? Et je regarde l'affiche en disant, non, je veux faire Edmond Rostand.
Elle vous a pris pour un fou?
Ma mère me ne prenait jamais pour un fou.
Voilà.
Elle a recueilli ce rêve. Le lendemain, elle m'a ouvert sa bibliothèque de théâtre. Elle avait plein de fascicules de théâtre parce qu'elle était passionnée de théâtre. Et elle m'a toujours soutenu dans mon envie d'aller faire un tour aussi du côté du théâtre.
Et ça a commencé à l'école, au lycée, où vous montiez des pièces?
Oui. On avait joué l'Antigone d'Anouilh, on ne savait pas quoi jouer comme deuxième pièce. Et je me suis entendu dire à tout le groupe et aux professeurs, je vous amène une pièce la semaine prochaine que j'aurai écrite ce week-end. Non mais vraiment, c'est mes lèvres, c'est même pas mon cerveau qui est à l'origine de cette phrase. Et le week-end, je me suis enfermé, j'ai écrit que la moitié de la pièce, mais je l'ai amené la semaine suivante et tout le monde s'est emballé pour ça. Et j'ai fait jouer ma première pièce au lycée.
Elle n'a jamais été jouée ensuite?
Non, je l'ai dans un placard, je ne l'ai pas encore relu. Mais il paraît que c'était pas mal, j'en sais rien.
Vous avez aussi pastiché Molière, et comme Courteline d'ailleurs, qui avait été le premier à pasticher Molière.
Et j'ai pastiché Courteline aussi.
Voilà.
J'adore pasticher, je le faisais beaucoup quand j'étais jeune, mais en même temps, cette facilité à pasticher me faisait peur, je me répétais toujours la phrase de Jean Cocteau, à force de faire le caméléon, on finit par mourir d'étouffement sur une couverture écossaise. Donc je me disais, j'imite la voix des autres, mais quelle est ma voix? Et ça, il fallait se mettre à écrire pour le découvrir.
Et puis, vous avez fait de la philosophie parce que ça vous a permis d'éviter de rester un enfant rebelle.
Oui, à la fois, ça m'a évité ça, c'est de ne pas me figer dans des rébellions, de réfléchir, de prendre de la distance, et puis aussi ne pas mourir de mes émotions. Parce que j'étais un enfant extrêmement émotif et je pouvais être détruit par les émotions. Et j'ai voulu me donner une colonne vertébrale pour tenir debout. Et ça a été la philosophie, et je ne le regrette pas.
Et ensuite, bon, il y a eu le succès au théâtre. Et moi, je n'oublierai jamais ce soir où j'ai vu l'une de vos pièces au Théâtre de Paris, Le Visiteur. Bon, c'est une pièce difficile, Freud qui rencontre Dieu. La salle, c'était un public archi-populaire.
Oui.
Et ça, c'est le miracle.
Ça, c'est incroyable. Quand je pense, avec le recul, que j'ai commencé ma carrière avec un succès populaire pour une pièce philosophique, ben, ça prouve qu'il faut parier sur l'intelligence du public.
Voilà. Et Freud, finalement, on ne le connaissait pas forcément quand on venait, on le connaissait bien en sortant, mais on n'était pas les seuls. Puis je crois que l'interprétation des rêves, qui est l'œuvre fondatrice de Freud, quand elle a été publiée en 1899, elle s'est vendue à 351 exemplaires. Et il a fallu 6 ans pour que le public découvre.
Je ne savais pas qu'au départ, ça se vendait autant que des housses de cathédrale.
Alors, vos études d'Hippocagne et tout ce que vous avez fait, vous ont donné la rigueur d'écriture, finalement?
Oui, bien sûr. Et en même temps, il faut être clair, hein, une formation, ça forme et ça déforme. C'est-à-dire que cette merveilleuse formation d'Hippocagne, Cagne, Normal Sub, l'agrégation de philo, tout ça, ça m'a permis de développer l'hémisphère du cerveau qui analyse les connaissances et qui réfléchit. Mais la spontanéité créative que j'avais avant, j'ai mis du temps à la raccorder avec cette culture.
Et il y a une chose qu'on sait peu, c'est que vous avez écrit 3 pièces en un acte pour des causes humanitaires, Éric-Emmanuel
Schmitt. Oui, c'est vrai.
Qui ont été joués une fois, donc.
Oui, mais quand on sait pour quelle cause c'est, ça valait le coup.
Ben c'était
Amnesty International.
Oui.
Et puis le secours populaire.
Et c'était l'école du diable pour Amnesty International,
oui.
Avec Huster qui avait joué le jeu.
Oui, exactement. Une soirée à l'Odéon.
Et pour vous, c'était important?
Bah, vous savez, tout ce que j'écris est traversé par des valeurs que j'essaye d'activer et de faire vivre à travers des histoires. Donc parfois, oui, bah, mettre son talent au service d'une cause, c'est toujours important. Ça nous honore, nous. Si ça peut renforcer la cause, tant mieux. Mais bien sûr, il faut être un citoyen d'abord.
Et vous avez mis aussi votre talent au service de grands comédiens. Belmondo, Delon ont joué du Schmitt.
J'étais gâté. Hein.
Mais ils ont accepté tout de suite.
Oui. Delon, c'était incroyable. Delon, il a eu la pièce le vendredi matin et le vendredi soir à minuit, il m'appelait en me disant c'est une des plus belles pièces que j'ai jamais lues et je la jouerai. Il va falloir m'attendre, m'a-t-il dit, parce que je ne serai pas libre avant un an. Et moi, tout de suite après, j'ai appelé les producteurs et le metteur en scène, et tous pensaient que j'étais ivre et que j'avais jamais reçu de coup de téléphone d'Alain Delon à minuit. Et le lendemain, ils ont eu le coup de téléphone d'Alain Delon parce que je leur avais indiqué qui devait appeler. Et ils ont vu que non, c'était bien vrai. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas fait de théâtre depuis 30 ans. Ouais. Il avait joué sous la direction de Visconti et avec Romy Schneider, Dommage qu'elle soit une putain, de John Ford. Et il reprenait le théâtre, donc c'était un événement total.
Et ce n'était pas vous qui étiez ivre le lendemain, mais vos producteurs, ivres de joie. Et on va reparler d'autres activités à travers une date, le 12 septembre 1994. A tout de suite sur Sud Radio avec Éric Emmanuel Schmitt.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Éric Emmanuel Schmitt. On parlera tout à l'heure du premier tome de La Traversée des Temps, Paradis perdu, chez Albin Michel. Un monument dans tous les sens du terme. Et là, on revient à une date, le 12 septembre 1994. D'après mes calculs, c'est votre première télé de romancier. Place au livre, vous évoquez avec Patrick Poivre d'Arvor la secte des égoïstes. Vous êtes avec un costume très sérieux, beige, avec une cravate un peu lumineuse, je dirais, et vous évoquez, mais très décontracté, ce premier roman.
Je m'en souviens à peine.
Et ben voilà. Et vous n'avez pas le tract, et vous dites que ce livre est un mélange d'ironie et de philosophie, et que ça vous correspond. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on ne vous attendait pas comme romancier à cette époque-là, vous étiez un auteur dramatique.
Oui, j'ai eu la chance d'être reconnu tout de suite comme auteur dramatique et pas de patienter dans l'antichambre. Mais moi, je savais que j'avais aussi des romans à écrire. Et en même temps, rien ne m'impressionnait plus que le roman. Parce que si vous voulez, l'auteur dramatique, j'ai l'impression d'être un peu comme Obélix. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. C'est-à-dire que ça m'est absolument naturel. Je dirais que c'est l'arbre sur lequel, naturellement, je chante le théâtre. Tandis que le roman, on ne fait que des prototypes au roman. C'est-à-dire chaque roman a une taille différente. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on va dire, ce qu'on ne va pas dire. Donc j'ai longtemps été beaucoup plus impressionné par le roman que le théâtre, jusqu'à ce que je l'apprivoise à mon tour.
Oui, en même temps, quand on est auteur de théâtre, les gens de la littérature ne vous accueillent pas forcément facilement.
Mais non, puis vous savez surtout ce que c'est en France, c'est-à-dire vous savez faire une chose et puis c'est tout. Et dès que vous vous déplacez, on suppose que forcément vous avez tort et que vous êtes mauvais d'office. Et moi, j'ai passé ma vie à me déplacer, à parfois essuyer comme ça un peu d'écume chaque fois que je me déplaçais. Puis avec le temps, finalement, la figure d'une espèce d'auteur polymorphe a fini par se dessiner.
Alors, à l'époque, vous dites que vous êtes un rat de bibliothèque, et je crois que c'est encore valable aujourd'hui.
Ah oui, mais c'est ça que maintenant, la bibliothèque, elle vient à moi à travers mon écran. C'est-à-dire, j'ai beaucoup moins besoin d'aller passer du temps à la Bibliothèque nationale, comme lorsque j'étais jeune. Et ça, c'est extraordinaire pour la vie des écrivains. La vie des écrivains a changé. L'accès à la documentation qu'on a à travers Internet est une révolution.
Mais on ne mesure pas, Éric Emmanuel Schmitt, le travail que représente la documentation d'un roman ou d'un livre.
Oui. D'ailleurs, souvent, entre écrivains, surtout aux États-Unis, c'est la première question qu'on se pose. On parle de nos recherches, de notre documentation, comment on a travaillé. Chacun essaye de se donner des bons tuyaux. Oui, bien sûr. Et puis surtout, du temps, non pas qu'il faut pour faire les recherches, mais aussi pour qu'elles sédimentent les recherches. C'est-à-dire que ça devienne comme une deuxième culture naturelle. Là, par exemple, pour ce grand projet de roman qui traverse l'histoire, il a fallu que les époques sédimentent en moi pour que je puisse les raconter comme si je racontais le monde contemporain. Et non pas en sortant des fiches qui disent alors il arriva avec des sandales qui avaient été faites dans du cuir de ceci, de cela. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un aspect scolaire.
Il faut tout faut digérer.
Il faut digérer.
Alors, à la fin de cette interview, PPDA dit de vous un homme dont on va beaucoup parler dans cette saison des prix, qui est un compliment, et vous obtenez un prix modeste, le prix du premier roman de l'université d'Artois,
oui,
qui est toute jeune.
Oui, non, c'était pas mon tour.
Alors, ensuite, vous allez commencer à faire de vos romans des pièces et réciproquement, ce qui est assez rare.
Oui, ce qui est d'ailleurs un drôle d'exercice, hein, parce qu'il faut changer de cerveau, quoi. Il faut remettre son cerveau de romancier sur l'étagère et puis prendre son cerveau de dramaturge ou l'inverse.
Et on arrive à mélanger les deux. Une clientèle retrouve l'autre.
On raconte la même histoire avec des moyens différents.
Voilà.
Mais ce qu'il faut, c'est raconter la même histoire.
Alors, il y a quand même un livre qui a marqué les gens, c'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, qui est en même temps une pièce. Et aujourd'hui, je sais que c'est un livre scolaire en France pour la classe de 3e et un livre de français en Allemagne. C'est incroyable.
Oui. Ah, c'est fou, l'histoire de Monsieur Ibrahim. C'est, C'est comme c'est la chanson de Trenet qui dit « Longtemps après que le poète ait disparu, ses chansons couraient dans les rues ». Moi, je voyage dans le monde entier. Là, je vais bientôt aller à Zagreb. Je vais jouer moi-même M. Ibrahim au Théâtre National, où j'ai appris que voilà, c'était un texte qui était connu, qui était travaillé, etc. Ça se passe sans nous, c'est ça qui est merveilleux.
Et comment ça s'explique ?
Bah, je pense qu'il doit y avoir dans l'histoire quelque chose qui... C'était... peut-être une des premières fois où on abordait le thème des invisibles dans la société, c'est-à-dire Monsieur Ibrahim est un invisible, c'est-à-dire personne fait attention à lui, il tient une épicerie rue Bleue à Paris dans le 9e, personne ne prête attention à lui. Et le petit gamin, qui est en état de danger parce que son père est dépressif et sa mère est partie, est aussi un invisible auquel personne ne prête attention. Et ces deux êtres vont se regarder et ça va changer la vie de l'un et de l'autre.
Mais ce qui est étonnant en plus, c'est que j'ai trouvé un sondage du magazine Lire à l'époque sur les livres qui ont changé la vie des Français. Il y a la Bible, les Trois Mousquetaires, Le Petit Prince et Oscar et la Dame Rose.
Oui, alors là, j'ai failli m'effondrer quand, à l'époque, c'était François Bunel qui dirigeait Lire et François m'a appelé pour me dire ça. Je ne pensais pas que j'étais rentré dans le cœur des gens comme ça, mais c'est pareil, l'histoire d'Oscar et de la Dame Rose, c'est une histoire qui m'a échappé en quelque sorte.
C'est une pièce universelle.
Oui. C'est un enfant de 10 ans qui est malade et qui écrit à Dieu. Il n'y croit pas, mais on lui a dit qu'il fallait écrire à Dieu. Et puis, progressivement, peut-être même son idée de Dieu va changer. Et donc, il raconte le courage qu'il a pour, et l'humour qu'il a pour affronter la maladie et vivre en étant faible. Et en fait, le livre est pas du tout... Il est très émouvant, mais il n'est pas du tout déprimant parce qu'il est du côté de la vie et du côté aussi de la sagesse. Mais moi, je ne savais pas du tout ce que j'écrivais en l'écrivant. Le succès de ce livre, c'est le succès qui m'a le plus étonné.
Et c'est venu comment, l'idée ?
Enfant, j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux pour enfants malades. Pas parce que j'étais malade, mais parce que mon père soignait les enfants malades. Il était kinésithérapeute après avoir été professeur d'éducation physique. Et il m'emmenait avec lui le jeudi après-midi et le samedi après-midi. Et puis après, adulte, j'ai accompagné des proches dans la maladie et parfois dans la mort. Et j'ai fait une synthèse de tout ça.
Et Oscar et la Dame Rose, et bien sûr, aussi étudiés dans les écoles. Alors, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'au lycée, L'étranger de Camus est très étudié. En revanche, La condition humaine de Malraux et Mauriac sont beaucoup moins au programme qu'aujourd'hui que jadis.
Oui, c'est curieux, hein, parce que c'est des auteurs magnifiques. Mais bon, il y a des mouvements comme ça. Peut-être qu'ils racontent moins de choses. Moi, je le regrette, hein, parce que c'est des auteurs que j'adore. Et c'est vrai que la survie des auteurs passe beaucoup aujourd'hui par l'école, par la prescription scolaire.
Alors, Oscar et la Dame Rose, ça a aussi été une pièce avec cette voix inoubliable.
Ah, ça.
Le premier rendez-vous, Daniel Darieux, 1934. Sa mère était cantatrice, c'est comme ça qu'elle a appris à chanter. Et vous l'avez convaincue de remonter sur scène. C'est incroyable.
Ah, c'était magique. C'est une des plus belles expériences de ma vie, d'avoir Daniel Darieux sur scène qui joue Oscar et la Dame Rose. Parce qu'elle avait le don de l'évidence. Quand elle disait quelque chose, quand elle interprétait une de mes phrases, je me disais... J'avais aucune distance. C'était ça. Ça pouvait pas être autrement. Et puis avec une grâce... C'est-à-dire que c'était du champagne, Daniel, c'était du Mozart, c'était de l'éclat, c'était du brillant. Et donc elle pouvait parler de choses tristes avec une élégance folle, sans jamais être triste. Elle était complètement du côté de la vie. D'ailleurs, elle a eu du mal à la quitter. Elle est morte à 100 ans. Hein. Elle avait le génie de la vie. Moi, ça a été un des plus gros cadeaux de la rencontre avec Daniel Darieux et le fait d'être joué par elle.
Et la convaincre de monter sur scène, c'était à son âge, c'était pas difficile ?
Ben, en fait, quand elle lit l'histoire, elle m'appelle en larmes, en me disant « je suis bouleversé par cette histoire et je serais incapable de la jouer, d'abord parce que j'ai perdu mon propre fils. Et donc, cette histoire me rappelle la mort de mon fils. Et ensuite, parce que vous ne trouverez jamais le petit garçon extraordinaire qui pourra jouer en face de moi. » Et là, je lui ai dit « Daniel, c'est pas ça du tout. C'est vous qui allez aussi être ce petit garçon en le faisant revivre par vos souvenirs. Et donc, vous deviendrez Oscar. Et comme vous serez Oscar, vous ne pleurerez pas parce que Oscar ne pleure pas. » Elle m'a dit « Laissez-moi 2 heures. » Une demi-heure après, elle me rappelait en me disant « D'accord, j'y vais. »
C'était un cadeau du ciel pour vous comme pour elle.
Oui, ça a été un grand moment. Pour moi, c'est sûr, mais elle aussi disait que c'était un des grands moments de sa vie.
Et il y a eu d'autres grands moments dans votre vie. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 9 juin 2012. À tout de suite sur Sud Radio avec Éric Emmanuel Schmitt.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Éric Emmanuel Schmitt. Paradis perdu, la traversée des temps, c'est un monument dont on va parler tout à l'heure. Et un monument aussi, c'est ce qui s'est passé le 9 juin 2012. Je crois que vous êtes élu à l'Académie royale de la langue, de la littérature française de Belgique. Mmh. Vous devenez académicien, pas français, mais presque.
Oui, avec le plus beau fauteuil, le fauteuil numéro 33. C'est un fauteuil qui avait été inauguré par Anna de Noailles, ensuite c'est Colette qui l'avait eu, et ensuite c'est Cocteau. Et le secrétaire perpétuel de l'Académie, Jacques de Decker, qui nous a quittés à cause du coronavirus, m'avait gardé ce poste en me disant « Est-ce que tu peux attendre ?» Parce qu'il m'avait dit que voilà, l'Académie voulait m'élire. Parce qu'on veut vraiment te donner le numéro 33.
Alors, l'Académie royale de Belgique, c'est une institution qui existe depuis longtemps et qui a un point différent de l'Académie française, c'est que les femmes y sont depuis le début.
Oui. Oui, parce que moi, mon fauteuil, c'était Anna de Noailles, la première.
Et Colette y avait été élue en 1936. Mmh. Et Colette, je ne sais pas si vous savez, avait fait scandale le 4 janvier 1907 au Moulin Rouge. Il y a un monologue, une petite pièce en un acte pour 10 jours, qui s'appelle Rêve d'Égypte. Et il y a un savant amoureux d'une momie. Et puis, la momie enlève son costume, ses bandelettes. Elle embrasse le savant. Et le savant, c'est une femme. Ouais. Donc, la pièce a été interdite le lendemain, par le préfet de police. Et Colette jouait le rôle principal.
Mais oui, c'était une scandaleuse.
Une scandaleuse. Alors, se retrouver comme ça, académicien, c'est une responsabilité. Surtout, je crois qu'il y a 10 étrangers dans cette académie. 10 français ou étrangers.
Oui, c'est une responsabilité. C'est d'abord un honneur. Et puis ensuite... vous savez, on a quand même tous des soirs de doute. Et tout d'un coup, quand vos pères vous reconnaissent, les soirs de doute se passent beaucoup mieux. Quoi. Non, c'est une chose qui m'a profondément ému et réjoui, surtout ce fauteuil-là.
Et il y a des travaux, comment ça se passe par rapport à
l'Académie
française ?
Alors, on fait de temps en temps des communications, et il y a des réunions, mais évidemment, en cette période de Covid, tout est devenu totalement numérique et abstrait. Voilà.
Alors, il y a l'Académie Goncourt aussi, dont vous êtes membre.
Alors qui demande beaucoup de travail.
Parce qu'il faut lire beaucoup de livres.
Oui, il faut lire beaucoup de livres. Pour trouver les pépites. Cette année, on est vraiment ravis parce que la pépite qu'on a trouvée, qui est Hervé Le Tellier, l'anomalie, va faire un Goncourt absolument historique depuis que le Goncourt est créé, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle. C'est-à-dire qu'il était en dessous de Marguerite Duras, qui était la championne, avec 1 600 000 exemplaires vendus. Lui, on est à 800 000. Mais si on regarde bien, Marguerite Duras a mis 30 ans à faire le 1 600 000. Dans les 6 mois, elle avait fait 800 000. Comme lui. Donc on est en face d'un Goncourt véritablement qui a conquis le cœur du public.
Et ça, finalement, pour le romancier que vous êtes, c'est une consécration d'être parmi les Goncourt.
Oui, parce que c'est y a une tâche que j'adore qui est de mettre la lumière sur le talent des autres. D'abord, on est élu par ses pairs, donc c'est toujours un bonheur. Mais ensuite, on a un véritable travail qui fait avancer, à mon avis, quand même l'histoire des lettres et l'histoire d'édition, c'est-à-dire repérer les talents, pas seulement du Goncourt de novembre, qui évidemment, pour lui, c'est le jackpot, mais aussi le Goncourt du premier roman, le Goncourt de la nouvelle et le Goncourt de la poésie et le Goncourt de la biographie. Donc on n'arrête pas de lire, on n'arrête pas de se réunir. Avant, c'était chez Drouhan, oui. Au restaurant. Maintenant, c'est sur une petite table à travers l'écran.
Ça va revenir, j'espère, parce que les déjeuners vous manquent et je comprends. Alors, finalement, l'Académie française vous a reconnu aussi, puisqu'elle vous a donné un grand prix du théâtre pour l'ensemble de votre œuvre dès 2001.
Oui.
C'est très vite.
Oui, mais en fait, quand Bernard Pivot m'a appelé pour l'Académie Goncourt, d'un autre côté, il y avait des académiciens qui voulaient me faire une élection de maréchal du côté de l'Académie française. Et Bernard Pivot m'a dit il faut choisir. C'est ou bien, ou c'est le Goncourt, ou c'est l'Académie française. Et le soir même, je l'ai rappelé en disant « Finalement, ça doit être plus agréable de déjeuner à 10 qu'à 40. »
Et vous n'êtes pas à l'Académie française et vous ne le regrettez pas. Alors, et vous êtes aussi, Éric-Emmanuel Schmitt, commandeur de l'Ordre de la Couronne par le roi Philippe. Une distinction rare aussi pour un Français.
Très rare. Mais d'abord, je suis franco-belge. Hein,
vous êtes devenu belge.
Oui. Mais effectivement, c'est très rare, d'autant plus que le roi Philippe fait très très peu d'annoblissement, en fait, parce qu'il s'agit... d'annoblissement.
Et ça consiste en quoi ? On est décoré comme une Légion d'honneur ?
C'est ça. C'est l'équivalent. La Légion d'honneur, c'est la version, je dirais, républicaine. Mais là-bas, on est dans une monarchie, donc on devient chevalier, puis peut-être un jour baron.
Et la Belgique est devenue un pays cher à votre cœur, que vous avez découvert un peu par hasard, Éric-Emmanuel Schmitt ?
Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle est toujours là. Quand j'avais 13 ans, 12 ans, je savais déjà par cœur le plat pays de Jacques Brel. C'était une des rares chansons que je savais par cœur. J'ai toujours adoré la Belgique et c'est vrai que j'ai décidé pour des raisons privées de vie affective de m'y installer et je l'ai jamais regretté. Et du coup, c'est vrai que j'ai la double nationalité. Quand j'ai appris que je ne perdrais pas la française si je demandais la belge, mais j'additionnerais les deux nationalités, je me suis dit, c'est moi.
Voilà, exactement. Voilà. Avec toutes vos activités, parce qu'il y a aussi l'adaptation de vos pièces au cinéma et deux films, parce que vous avez aussi été metteur en scène de cinéma, Oscar et la Dame Rose et Odette Tout le Monde. Comment on fait pour passer de la mise en scène de théâtre à celle du cinéma? C'est pas le même principe.
Non, je crois que je préfère d'ailleurs mettre en scène au cinéma que mettre en scène au théâtre. Parce qu'une fois qu'on a obtenu ce qu'on veut, qui s'est imprimé sur la pellicule, c'est bon. Alors qu'au théâtre, on l'a obtenu un jour, mais le lendemain, on ne l'a pas forcément. Donc c'est beaucoup plus volatile, labile, la mise en scène de théâtre. On travaille. Moi, quand on m'a proposé de faire le film, j'ai appelé les amis réalisateurs que j'avais en disant... quels sont les livres que je dois lire, quels sont les films que je dois voir, analyser, etc. Et je me suis acheté un mur entier de bibliothèque, j'ai tout lu, et j'ai regardé pour essayer d'avoir les moyens de faire ça.
Et finalement, ça a marché. Vous avez aussi fait des téléfilms, et ça vous a passionné.
Oui. Ah mais moi, de toute façon, dès qu'on me propose quelque chose que je n'ai pas fait, je suis partant. Je suis curieux.
Alors, Odette Tout le Monde, il y a dedans Catherine Fraud qui joue, et elle évoque cette chanteuse.
J'ai deux amours, mon pays et Paris.
Vous, c'est Paris et Bruxelles, oui. Mais Joséphine Baker fait partie
du film. C'est-à-dire que Odette, qui est une femme d'aujourd'hui, qui vit à Charleroi, chaque fois qu'elle est heureuse, ça chante en elle. Et ça chante, c'est Joséphine Baker. Elle a une âme black et jazzy au fond d'elle. Et c'est sa vraie voix intérieure. Donc, tout le long du film, il y a des moments fantastiques où Catherine Fraud devient Joséphine Baker, pour dire son bonheur d'être au monde.
Et pourquoi Joséphine Baker?
Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y a en elle d'abord un charme fou. Vous avez entendu la voix, là, comme ça, le vibrato est joli. Et puis, c'est une résiliente, c'est une guerrière. Une guerrière avec toutes les armes de la féminité. Et mais voilà, c'est quelqu'un qui n'a jamais accepté que le destin soit ce qu'il était. Donc, c'est une figure que j'admire.
Et pendant la guerre, elle était dans la résistance. Oui. Elle avait trouvé un truc, je ne sais pas si vous le savez, pour faire passer des documents à la résistance. Elle prenait des documents qui étaient écrits à l'encre sympathique sur ses partitions. Elle passait les frontières comme ça, parce que naturellement, on ne la fouillait pas. Elle faisait des baisers à tout le monde, des autographes. Et elle a transmis comme ça des tonnes de renseignements à la résistance.
Oui, j'adore.
Alors, votre savoir, vous le transmettez aussi par une plateforme d'enseignement en ligne, une masterclass d'écriture que vous avez créée, qu'on voit sur Facebook régulièrement. Je suis Eric Emmanuel Schmitt. Comment c'est né cette histoire et qu'est-ce que c'est ?
C'est pas moi qui ai créé ça, j'ai accepté. C'était une entreprise de femmes absolument remarquables qui ont proposé de créer The Artist Academy, c'est-à-dire sur le modèle américain, c'est-à-dire de demander à des gens qui ont réussi dans leur domaine de donner des masterclass. Donc j'ai été un des premiers qu'elles ont contacté pour faire une masterclass d'écriture. Donc j'ai fait une première masterclass, celle de l'écriture du roman, et au mois de juin, une deuxième masterclass, l'écriture d'une pièce de théâtre. Et donc j'ai enregistré comme ça 21 cours, je crois, pour la masterclass de roman et 12 pour la masterclass de théâtre. Et j'essaye de partager cette expérience, ce combat que j'ai moi-même pu vivre, parce que quand on écrit, il y a des moments où on a des pannes, il y a des moments où on se décourage, etc. Transmettre ce vécu qui est le mien, toutes les discussions que j'ai eues avec mes camarades romanciers et écrivains et au fond, pas pour dire aux gens « devenez cet écrivain-là », mais « devenez l'écrivain que vous êtes ». Partez à la découverte de l'écrivain que vous êtes.
Et pour vous, c'est un retour aux sources de l'enseignement.
Ben oui.
Et ça, c'est des réflexes qu'on n'oublie pas quand on a été enseignant.
J'ai adoré enseigner. Je n'ai enseigné que 5 ans. Parce que j'ai été rattrapé par le succès, ce qui est un bonheur, et ce qu'aucun écrivain ne refuse. Mais j'ai adoré enseigner, et donc là, j'ai retrouvé cette relation.
Vous êtes aussi, je crois, très célèbre au Québec. On vous a décoré aussi, hein, tant qu'à faire.
Oui.
Et alors, l'expression masterclass, c'est un anglicisme. Au Québec, cette expression est déconseillée.
Ah oui.
Complètement. Pas question d'employer. Et j'ai découvert que le premier à animer une classe de maître, avant la lettre, si j'ose dire, c'était Liszt à Weimar en 1869.
Ah, vous me l'apprenez.
Voilà. Et Liszt, vous l'aimez, vous préférez Mozart, parce que vous avez fait des spectacles sur Mozart. Ça continue votre passion de la musique classique, Eric Manuel.
c'est essentiel comme la respiration pour moi. C'est, si je n'écoute pas de la musique, comme on dit, classique, j'étouffe.
Même en écrivant?
Ah non, avant d'avoir écrit et après avoir écrit. Parce que la musique a de la présence. C'est comme si vous étiez dans la pièce et que vous me parliez, je ne peux pas écrire. Voilà, la musique, si elle est là, je l'écoute.
Alors, il y a une chose étonnante que j'ai découvert, c'est que vous avez commenté en 2016, Éric-Emmanuel Schmitt, les épreuves d'athlétisme des Jeux Olympiques de Rio. Ouais. Ça, pour un non-sportif, c'est étonnant.
Oui, mais un amoureux de l'athlétisme, parce que, évidemment, j'avais une mère championne. Le record de ma mère a mis 20 ans à être battu. Elle était une sprinteuse redoutable. Et donc, elle m'a transmis cet amour de l'athlétisme. Au moment même, je courais vite, hein, je dois avouer, puisque j'avais hérité de ses jambes. Mais voilà, j'ai toujours suivi les Jeux Olympiques avec passion. Et quand France Télévisions l'a appris, ils m'ont proposé d'aller faire la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire de venir faire des commentaires des Jeux.
Et ça, c'est aussi un autre métier.
C'est un tout autre métier, c'est épuisant. Je crois que je n'ai jamais été autant fatigué de ma vie. Non pas de voir courir les autres, mais moi, passer mon temps à courir de l'hôtel au studio d'enregistrement, commenter un marathon de 40 km, mais quelle épreuve! C'est aussi une épreuve verbale.
Alors, ces Jeux Olympiques de Rio, je ne sais pas si vous le savez, les bâtiments avaient été construits de briques et de broc.
Ça, j'ai bien vu. Oui.
Voilà, il y avait des problèmes de plomberie, des fils électriques qui pendouillaient. Et tout a été rafistolé à la dernière minute pour des questions de budget. Deux semaines avant le début des Jeux.
Je vous le confirme. Voilà. Je vous le confirme. Et nous, on était dans un hôtel. On peut dire que le service public n'a pas fait de trop grosses dépenses parce qu'on était dans un hôtel tout neuf, mais dans un état bizarre. Et dans le petit fossé qu'il y avait au bout du jardin de l'hôtel, il y avait des crocodiles.
Tant qu'à faire, voilà.
Voilà.
Alors vous, ce n'est pas des larmes de crocodile, mais que de joie qui coule de vos yeux, parce que finalement, quand vous avez commencé, vous n'imaginiez pas qu'aujourd'hui vous seriez lu dans 50 pays, traduit en 46 langues.
Non, c'était, tout ça est arrivé sans que j'aie même eu le temps de le désirer, et encore moins de l'attendre. J'ai été porté par une espèce de force qui m'a dépassé. Ça me donne des ailes encore aujourd'hui.
Et comment on le vit justement aujourd'hui? Ça donne envie de continuer? Parce que vous pouvez vous arrêter.
Je suis un peu comme Danielle Darrieux. Elle parlait jamais de ce qu'elle avait fait. Ce qui l'intéressait, c'était maintenant, ce soir et demain. C'est-à-dire, je suis toujours dans le présent. Ce qui compte, c'est ce que je suis en train d'écrire. Et j'ai l'impression que je vais montrer aux gens que, ouais, peut-être j'ai fait des trucs bien avant, mais là, c'est encore mieux. Je suis complètement dans le présent.
Ben on va justement parler du présent dans quelques instants à travers une autre date, le 3 février 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Éric-Emmanuel Schmitt.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Éric-Emmanuel Schmitt. 3 février 2021, sortie de Paradis perdu, tome 1 de la traversée des temps chez Albin Michel. Alors, c'est le premier tome d'une série de 8. Alors, ça fait, là, il y a plus de 560 pages dans le premier, donc j'ai calculé en 8 tomes, ça fera 4500 pages.
C'est vraiment... ça. Hein.
Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire romancée de l'humanité, du déluge à nos jours. Ouais. C'est une idée totalement folle au départ.
Oui, mais s'il n'y avait pas la folie, il n'y aurait pas de sel dans nos vies. Ouais. C'est une idée que j'ai eue à 25 ans, mais à 25 ans, j'étais capable d'avoir l'idée, mais pas de la réaliser. Et c'est devenu vraiment un projet qui m'a accompagné toute ma vie. Plusieurs fois, j'ai cru que je commençais, que j'y arrivais, et puis je n'y arrivais pas. Alors j'écrivais les autres choses que j'avais à écrire. Et puis il y a 3 ans, ça s'est débloqué. J'avais résolu un peu tous les problèmes que posait cette histoire. J'ai construit l'arbre des possibles d'un roman qui aurait des surprises jusqu'au bout, même à la 4500e page. Et puis je me suis mis à écrire le premier et j'ai vu que ça sortait absolument tout seul. Donc ça y est, il était temps, c'était mûr.
Ah, ça veut dire aussi 30 ans de documentation.
Oui, bien sûr.
Vous avez travaillé régulièrement pour accumuler tout ce que vous deviez digérer.
Oui. Accumuler et digérer. Vous avez employé les deux bons termes. Oui, parce qu'il fallait délimiter de quelle période j'allais parler, surtout les grands moments qui fondent l'humanité, les moments de mutation, etc. Et puis ça, c'était l'aspect intellectuel. Mais après, il fallait faire vivre des personnages et trouver des personnages qui allaient pouvoir traverser tout ça.
Comment est née cette idée ?
Je sortais de ma grande école, l'école normale supérieure, j'étais un jeune agrégé, je finissais ma thèse sur Diderot, c'est-à-dire un esprit encyclopédique, et j'ai toujours eu l'esprit encyclopédique. Et je redécouvrais le bonheur de la littérature, parce que pendant les études, on lit utile, on lit pas pour son plaisir. Et je lisais Marguerite Yourcenar, Mika Waltari, les grands auteurs de romans à base historique, et j'ai eu cette idée voilà, d'un homme qui... à 25 ans, serait condamné à rester à 25 ans toute sa vie, mais sa vie, ça serait pas une vie équivalente à nos vies, ça serait la vie d'un immortel. Et cet homme donc isolé au milieu des autres hommes, mais qui pourrait nous raconter comment l'humanité est devenue l'humanité, parce qu'il aurait été le témoin, voire l'acteur, des grands moments de bascule qui ont fait notre histoire.
C'est-à-dire qu'il change de nom et de situation à chaque roman.
Là, dans le premier tome, il s'appelle Noam, et on se rend compte à la fin du tome que l'histoire l'a gardé sous le nom de Noé.
Oui,
mais dans les autres tomes, voilà, on va découvrir qu'elle l'a gardé sous d'autres noms.
Alors, finalement, c'est une façon d'observer l'être humain et la civilisation, Éric Emmanuel Schmitt.
Oui, parce qu'on est fait de grandes ruptures. Là, l'histoire se passe il y a 8000 ans. Bon, qu'est-ce qui se passait il y a 8000 ans? Tout d'un coup... L'homme a changé, il est passé du nomade chasseur-cueilleur au sédentaire, dans les villages lacustres. Eh bien, ce changement, il conditionne absolument évidemment toute la suite. Du temps des chasseurs-cueilleurs, les hommes ne travaillaient pas. En une heure, ils avaient résolu les problèmes de propreté et de nourriture. Et donc, ils vont tout d'un coup devenir sédentaires, ils vont travailler, ils vont se mettre sur la terre pour la cultiver, ils vont diviser les métiers, ils vont créer le foyer, ils vont créer aussi la femme au foyer, le patriarcat. La condition des femmes change à partir du moment où il y a la sédentarité. Nos ancêtres cueilleuses, chasseuses, avaient la même vie que les hommes. Et là, tout d'un coup, il y a une différence entre le féminin et le masculin. Bref, notre histoire se met en place. Et j'essaye de décrire, à travers une histoire purement romanesque, tous ces moments qui nous ont constitués.
Oui, c'est une sorte de miroir du passé pour éclairer le présent.
Exactement.
Alors, votre héros, votre personnage, finalement, il y a un côté phénix qui renaît de ses cendres. Ça commence à Beyrouth, dans une grotte. Mais aujourd'hui, parce que finalement, il y a l'explosion qui a détruit Beyrouth, voici quelques mois.
Il renaît effectivement à Beyrouth parce qu'il hiberne régulièrement, c'est-à-dire il a cette possibilité quand même de s'absenter de notre monde. Et donc il revient dans notre monde d'aujourd'hui et découvre l'état du monde. Et il a peur, peut-être pour la première fois de sa longue existence, il a peur parce qu'il voit des hommes alertés par le fait que la planète est en train de changer, que peut-être l'homme a détruit finalement la nature en voulant trop la domestiquer et l'exploiter. Et donc, dans cette prise de conscience, lui, ça le ramène à son ailleurs, à son avant, à ses paradis perdus, à ce moment où l'homme était d'une façon totalement différente au milieu de la nature.
Les paradis perdus, pour la plupart des gens, c'est cette chanson.
Peut-être un beau jour voudras-tu.
C'est Christophe pour les gens, alors qu'en fait, les paradis perdus, c'est un poème de John Milton,
oui,
qui est un pamphlétaire du XVIIIe siècle en Angleterre. Oui. Sans l'a un peu oublié.
Un très beau livre de Milton.
Que vous connaissiez
Oui, il était aveugle et il a écrit ce livre en écrivant les mots et les lettres sur sa mémoire, parce qu'il ne voyait pas.
Et le poème a été connu une dizaine d'années après sa mort seulement, et c'est Chateaubriand, je crois, qu'il a traduit en français.
Exactement.
Alors, il était passionné par la Bible, influencé comme vous. Et d'ailleurs, ça se sent dans ce roman,
oui,
où il y a la Genèse, la Bible, et ce sont des éléments essentiels.
Ben oui, parce que les premiers récits qu'on a sur l'histoire de l'humanité, c'est la Bible ou c'est la légende de Gilgamesh en Mésopotamie. Et moi, j'ai voulu voir... Je donne dans mon roman... les événements qui se sont passés et après comment la Bible les interprète. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse autant que l'histoire, c'est l'histoire des histoires. C'est-à-dire comment les hommes s'emparent d'un événement naturel. C'est-à-dire il y a eu effectivement un moment d'inondation, sans doute il y a 8000 ans. Comment les hommes s'en emparent pour se raconter le monde. Et donc, je fais aussi quelque part l'histoire de la Bible.
Et en même temps, il y a un mélange d'hier et d'aujourd'hui, puisque au début du livre, il y a des jeunes qui manifestent pour le réchauffement climatique, qui
oui,
est l'actualité.
Enfin, contre le réchauffement climatique. Mais bien sûr, parce que c'est ça notre époque, cette prise de conscience que peut-être l'homme, dans son exploitation de la nature, est allé trop loin. L'impérialisme humain, tout d'un coup, s'essouffle.
Et quand justement on analyse le passé, on s'aperçoit de toutes les erreurs.
Oui, et que ça aurait pu être autrement. Et puis, quels sont les choix qui nous ont fait riper. Mais moi, il ne s'agit pas du tout d'être nostalgique, même si ça s'appelle Paradis perdu. Le but de tous ces romans, ça va être de montrer comment Il y avait peut-être un bonheur de vivre à chaque époque, comment il y avait une façon d'habiter l'univers dans les différents moments de l'homme. Ce sont des moments différents, mais que le roman nous permet de retrouver, parce que le roman, c'est l'abolition de la distance. Le roman, un roman historique, c'est beaucoup mieux qu'une ruine. Une ruine, c'est en ruine. Tandis qu'un roman historique vous rend les êtres concrets, les paysages présents, et ça donne de la chair et des émotions à ce qu'on raconte.
Et ce roman, c'est aussi une fiction scientifique, puisque des scientifiques ont analysé ce qu'on a appelé le déluge et qui finalement,
exactement.
Et je crois que c'est la Méditerranée qui, du côté de l'Ukraine, a légèrement débordé.
Exactement, parce qu'après la période glaciaire, il y a eu un réchauffement de 4 degrés de la planète. Ça suffit à faire monter la Méditerranée de plus d'une centaine de mètres. Et au niveau de ce qu'est aujourd'hui le Bosphore, mais qui était une étendue de terre, elle est passée par-dessus et elle s'est répandue dans les plaines de l'Ukraine. Et où il y avait un lac, et ce lac est devenu la mer Noire. Donc il y a eu un déluge, mais qui n'était pas un déluge universel, comme il nous est raconté dans les textes, mais il y a eu un déluge qui a traumatisé les hommes, et dont la Bible porte la trace.
Et ce déluge, Noé, votre héros, en a été le témoin.
Oui, il l'a affronté.
Il l'a affronté, et on le raconte comment. Alors il y avait l'Arche de Noé, et puis j'ai découvert une chanson totalement inconnue, de 66, qui s'appelle l'Arche de Zoé. C'est incroyable. Voilà. C'est cette chanson de Aïra en 66 dans le palmarès des chansons est totalement inconnue et ça évoque finalement votre sujet, sauf que c'est l'Arche de Zoé. Alors, ce paradis perdu, justement, vous l'évoquez, et dans ce paradis perdu, il y a une femme et la femme est essentielle.
Oui. Noam a la vie d'un autre dans son clan, dans sa tribu. Il a une vie indifférenciée. Et puis, tout d'un coup, arrive cette femme, Noura, incroyable, parce qu'elle elle a l'air d'échapper à tous les conditionnements de la femme. Elle est elle-même, rien qu'elle-même. Elle impose sa volonté. Et cette femme va le révéler à lui-même. Ce n'est pas seulement l'amour. Vous savez, la rencontre, c'est à la fois la découverte de l'autre et la découverte de soi. La vraie rencontre, elle nous permet d'apercevoir en nous quelque chose qu'on ignorait. Et lui, il va devenir lui-même grâce à cette femme. Mais en même temps, devenir lui-même, ça veut dire s'opposer au père, puisque son père va aussi tomber amoureux de cette femme. Et donc là, le fils et le père vont devoir s'affronter. Et donc le fils va pouvoir grandir, puisque enfin, il va s'opposer au père.
Et il y a l'oncle aussi derrière qui s'en mêle.
Voilà, ça j'adore le personnage de l'oncle, Barack.
C'est autre chose, il s'appelle Barack, mais rien à voir avec Obama. Alors, vous évoquez quand même des phénomènes étonnants, par exemple, la météo. La météo, vous expliquez, ce qu'on ne sait pas, Éric-Emmanuel Schmitt, qu'elle a mis des millénaires à naître.
Bien sûr. Parce que les hommes avaient une interprétation d'abord totalement animiste de ce qui arrivait, c'est-à-dire s'ils pensaient que le vent se levait ou que la pluie tombait, c'était les dieux. Mais ils n'imaginaient pas du tout qu'il y avait un système. D'abord, ils n'imaginaient pas qu'il y avait un lointain. Ils pensaient que ce qui arrivait, arrivait juste à l'endroit où ils étaient. Ils avaient une conception très finie du territoire. Et donc, un phénomène atmosphérique était un phénomène qui était sur leur territoire. Ils n'imaginaient pas lié à toute la géographie de la Terre et au mouvement des vents, etc. Donc, il a fallu l'invention du lointain et des confins pour que la pensée météorologique commence à s'élaborer.
Voilà, la météo et le déluge, effectivement, il y a des liens. Et moi, je me souviens d'images de la météo au début de la télévision, au temps du noir et blanc. Au début, c'était des petits cartons faits dans le bureau de Météo France, tournés par une caméra et apportés l'après-midi même, deux fois par semaine, à la télévision pour le journal télévisé. Les autres jours, on ne savait pas quel temps il faisait, ça n'avait aucune importance. Alors, il y a aussi des choses étonnantes, c'est que dans cette histoire, soudain, apparaît Albert Einstein.
Oui, parce que Noam a traversé les temps. Et de temps en temps, dans les notes, il nous raconte que ce qu'il a pu vivre plus tard, qui a rapport avec son récit. Et effectivement, il dit qu'un jour, il a rencontré, dans les années 50, Albert Einstein faisant de la voile, puisque c'était un des hobbies de Einstein, et il l'a sauvé de la noyade. Mais il explique qu'il n'a jamais vu un homme aussi empoté. C'est-à-dire que lui, il est un homme du passé, c'est-à-dire qu'il sait tout faire, entre guillemets. Il sait faire du feu, il sait choisir les aliments, il sait chasser, il sait coudre, etc. Et il dit, je rencontre un des plus grands génies de l'humanité et je me rends compte qu'à part le domaine où il est excellent, il est nul en tout. Et il dit finalement, le développement de la civilisation a permis la survie des crétins et des génies. Des crétins qui sont bons à rien et des génies qui sont bons qu'à une seule chose.
Et Einstein ne savait faire qu'un plat, c'était les spaghettis. Et comme il ne voulait pas laver son linge, il ne portait pas de chaussettes.
Oui, c'est vrai.
C'est total. Alors, il y a aussi Moby Dick qui apparaît là-dedans, oui, de façon étonnante. On ne s'y attend pas.
Oui, bah parce qu'il y a un personnage dans l'histoire qui dit, quand on lui pose une question, il dit « je préfère ne pas ».
Oui.
Des réponses extrêmement énigmatiques. Et à un moment, Noam va raconter que beaucoup plus tard, il rencontrera un marin sous à New York, dans une taverne, et qui va lui raconter cette histoire d'un personnage qui disait « je préfère ne pas ». Et que, en fait, eh bien, plusieurs années après, il va découvrir que ce marin sous a finalement rencontré le succès avec une histoire qui s'appelle Moby Dick, et qu'il a surtout écrit une autre histoire à partir de ce que lui avait raconté Noam, c'est-à-dire le fameux Bartleby, cette très jolie nouvelle, où le personnage est dans un bureau d'avocat, et chaque fois qu'on lui demande de faire quelque chose, il répond « je préfère ne pas ».
Voilà. Et il faut savoir que Moby Dick, il y a un personnage qui est le baleinier qui s'appelle Starbuck, oui, et que c'est le nom de la chaîne de restaurants à la suite de ce roman. Alors, c'est le premier roman, il y en a donc 7 autres déjà prévus, le second est en cours, sort en octobre, vous avez déjà bien avancé sur la suite ?
Je l'ai conçu. Oui, je l'ai conçu, mais en me laissant des latitudes. Vous savez, quand un personnage arrive dans un roman, parfois, il prend beaucoup de place. Là, par exemple, l'oncle Barak que vous évoquiez, je croyais que c'était un personnage totalement secondaire. Et puis, à partir du moment où il est arrivé dans l'histoire, il a occupé beaucoup de place. Donc, je me laisse toujours la latitude. À la fois, je tiens les rênes et en même temps, je laisse le cheval libre.
Dans la tradition des feuilletonistes de jadis.
Exactement.
Et donc, vous en avez pour quelques années avec cette histoire.
Oui, je fais ce qu'on appelait au 19e siècle « carcassier ». C'est-à-dire Alexandre Dumas ou Eugène Sue étaient d'excellents carcassiers parce qu'ils savaient construire leurs histoires. Puis après, ils lâchaient un peu la bride à l'imagination. Mais je trouve que c'est important d'être carcassier et ensuite d'être libre.
Ben, nous, on est libre et heureux de vous avoir reçu. Parce que si on parle en vrai, notre slogan, on est libre. Mais surtout, je recommande à celles et ceux qui nous écoutent la traversée des temps, le paradis perdu d'Éric Emmanuel Schmitt chez Albin Michel, parce qu'il y a 562 pages, on a du mal quand on commence à s'arrêter.
Merci.
Continuez comme ça, parce qu'on attend la suite maintenant avec impatience.
La pression que vous me mettez, mais merci, c'est une pression qui me donne des ailes.
Alors continuez. Merci Éric Emmanuel Schmitt. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.